Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4 à la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est, on commence donc notre émission sur les chapeaux de roue avec un morceau des Berruriers Noirs, Nada, que vous aurez sans doute reconnu. Et comme d'habitude, notre sélectionneur musical et technicien et webmaster et comment dire, mentor secret
gourou.
José, avec son sens de la propos, avec un sens de la propos absolument colossal qu'il caractérise, a choisi le titre Nada parce que ça fait, c'est une référence subtile au nom de l'éditeur qui a édité le bouquin dont on va parler. Dans l'éditeur, c'est Nada. Donc il fallait trouver quand même la connexion. Et c'est un bouquin de Victor Serge, c'est des essais critiques sur Nietzsche. Donc aux éditions Nada, comme je l'ai déjà dit, donc introduction, traduction et notes d'Annick Stevens. Alors Victor Serge, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, était un journaliste anarchiste individualiste du début du XXe siècle, qui ensuite a trahi la cause pour rejoindre Trotsky en URSS et devenir un vil communiste, avant de mourir tel un vil communiste.
C'est un mec très bien.
Voilà, alors il n'est pas mort sous les coups de Ramon Mercader, mais qui était un vil stalinien, mais
dans des circonstances qui sont pas claires quand même.
Mais dans des circonstances qui sont pas claires. Certains prétendent qu'il aurait été empoisonné par le Comintern. C'est ça. Donc puisqu'il était trotskiste, évidemment, il s'est barré du RSS en 27 peut-être avant.
Non, en 30.
En 30.
30 35 même.
Aussi tard que ça.
Oui, c'est tard.
Ah oui, c'est tard. Parce que ça veut dire qu'il a survécu.
Enfin, il s'est pas barré en fait, il a été exfiltré.
C'est-à-dire qu'il a survécu à l'assassinat de Kirov en 33. D'accord. Et donc, je ne savais pas qu'il était parti aussi tard. Je pensais qu'il était parti en même temps que Trotsky. Et voilà, donc. Et donc ça, c'est des articles de jeunesse de lui quand ouais. il était encore un fier anarchiste libre.
Mmh. Ben non, mais t'as raison de dire deux mots sur la bio de Victor mmh. Serge. Alors bon, c'est effectivement, t'es un journaliste, mais c'est aussi un romancier. Un romancier, mmh. un essayiste. Mmh. Bon, il y a des textes assez...
Et t'es pas mal publié ces dernières années.
Ouais,
en
pas mal publié. Enfin, c'est remarquable, hein, faut quand même dire les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, sa trajectoire, elle est intéressante parce que, en gros, il est né en 1890. Il est donc, il meurt, alors on ne sait pas s'il est assassiné ou pas, mais en 47 au Mexique, donc en exil. Et alors il est né en Belgique, de parents réfugiés politiques russes. Et puis ensuite il va avoir un passage à Paris, il arrive à Paris autour de 1907-8 je crois, donc il est très jeune. Et c'est en fait au départ, effectivement, ses premiers engagements politiques, il s'engage très très jeune, et effectivement, il s'engage du côté anarchiste, hein, c'est-à-dire c'est pas, il est assez hostile, du moins dans cette période-là, au syndicalisme, à toutes les aux différents partis ou organisations socialistes ou socialisantes.
Il est lié à la bande à Bono.
C'est-à-dire qu'il les connaît. Il les connaît et surtout, en fait, il écrit effectivement pas mal d'articles dans la presse anarchiste de l'époque. Il connaît la bande à Bono et en fait, il va faire de la prison. Il va en faire 5 ans. Hein, en 1909 ou 10, en fait, il tombe pour les avoir hébergés et pour ne pas les avoir
dénoncés
à la police. Hein. Donc il va faire un premier séjour en prison, puis après il va en faire un autre, un deuxième. Donc en fait, c'est quelqu'un qui paye de sa personne, hein, faut quand même le dire. Son parcours géographique, c'est ça, c'est Belgique, ensuite Paris, ensuite Barcelone, et ensuite reprison, donc deuxième séjour en prison, et ensuite effectivement à sa sortie de prison, il part en Union soviétique parce que c'est le tout début de la révolution russe, et en fait il décide de partir faire la révolution et de mettre un peu en application les principes qu'il a défendus avant, quoi. Et donc effectivement, comme tu dis, il va pas avoir des anarchistes, hein, donc il est dans la première vague, effectivement c'est la révolution prolétarienne, de programme communiste, etc. Donc il va pas avoir de responsabilité très très importante, hein, mais il est quand même pas très loin du quartier général, parce que s'il sait écrire, parce qu'il a des talents d'organisateur, parce que voilà. Et effectivement, comme tu dis, il va, à partir du moment où Staline s'installe, en fait, il va être plutôt effectivement du côté de un soutien de Trotsky, sachant qu'il a jamais lui adhéré à la 4e internationale, par exemple. Hein, donc il est resté, ça on peut le dire sans démagogie, quoi. C'est qu'il est resté quand même tout au long de sa vie, il est resté fidèle à certains principes libertaires, quoi. C'est-à-dire qu'il a jamais officiellement renoncé à ça. Il les a défendus à peu près jusqu'au bout. Et donc après, il va être mis à l'écart d'abord, puis il va faire de la tôle aussi en Russie. Et en fait, il va être exfiltré de Russie sur intervention, en fait, sur une campagne internationale de soutien, notamment de ses connaissances et de ses amis libertaires français. Pas seulement libertaires, d'ailleurs, les syndicalistes révolutionnaires, des gens comme Pierre Monnat et tout ça, sont pas très rancuniers par rapport à ce qu'il a pu écrire avant la Première Guerre mondiale, et vont effectivement mener une campagne de presse pour qu'il soit libéré et puis qu'il soit accueilli en France. Et en fait, on raconte que c'est sur intervention directe de Romain Rolland auprès de Staline qu'il a pu être libéré en fait de l'Union soviétique et de revenir en France. Donc il revient en France et puis après il va y avoir la guerre, mais c'est assez tardif, hein. Il revient plus quelques années avant la guerre, hein, 3-4 ans si ma mémoire est bonne, et après la guerre arrivant, et du coup il va s'exiler au Mexique comme beaucoup, et c'est là qu'il va donc finir. Alors sur les textes, je donne quand même des indications de bibliographie.
Victor Serge, hein.
Victor Serge, ouais, toujours.
C'est un pseudo parce que ouais. Son nom c'est Kibalchich.
C'est ça. Donc c'est le pseudo qu'il prend pour signer ses articles dans la presse libertaire. Et puis après pour signer ses romans ou ses essais. Et alors moi je signale quand même, parce que c'est un texte qui est assez impressionnant, qu'un de ses plus connus, qui s'appelle Mémoire d'un révolutionnaire, qui est en fait son autobiographie, et qui est alors absolument scotchant, parce qu'il raconte effectivement tout ce parcours-là là, que je viens d'évoquer, mais en quelques mots là, et c'est très 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 impressionnant, et pour le coup c'est une espèce de traversée du début du XXe siècle qui est vraiment impressionnante. Mémoire d'un révolutionnaire, ça c'est vraiment à lire. Et puis il y a les éditions Agone avaient réédité il y a pas très longtemps un texte de lui aussi qui est paru après sa mort, un texte posthume qui s'appelle Les années sans pardon et qui est en fait qui est un essai qui met en scène, en fait c'est dans l'entre-deux-guerres avant la Seconde Guerre mondiale, hein, deux agents du Comintern qui en fait sont saisis de doutes face aux basses besognes qu'on leur fait faire pour l'État stalinien, qui est un texte alors très sombre, hein, parce que effectivement il a dû faire le deuil de pas mal d'illusions et de pas mal d'aspirations, et donc il raconte aussi ça dans ce roman, mais c'est un très bon texte aussi. Mais Les mémoires d'un révolutionnaire de Serge, c'est vraiment un texte de référence.
Agone a aussi publié Le Retour à l'Ouest.
Ouais, t'as ça aussi.
Où il raconte justement sa sortie de prison, ouais. Et le moment où il revient.
Et alors les textes là qui ont été édités chez Nada là l'année dernière en 2018 là, donc c'est Essai critique sur Nietzsche. Alors en fait c'est une collection de textes qui sont des textes de jeunesse, pourrait-on dire, donc des textes de sa période vraiment libertaire, anarchisante, je dirais. Donc là effectivement il a à peine 20 ans, hein, pour les premiers. Et le texte central, l'essai central, c'est un long article qu'il a écrit, alors un peu plus tard, il est un peu plus âgé, dans le journal catalan Tierra et Libertad, je ne sais pas comment, j'ai pas un accent extraordinaire, mais qui est un canard anarchiste en fait de Barcelone. Et c'est un essai sur Nietzsche. Alors donc c'est des textes qui sont plus théoriques, plus philosophiques. Hein. Les éditions Nada là, ont complété ça avec d'autres articles, alors qui sont tirés plutôt de la presse française. Qui sont des articles vraiment de cette période et qui tournent autour en fait de la lecture que Serge fait de Nietzsche, donc Nietzsche ce philosophe allemand alors un peu antérieur, hein, mais qui a fasciné en fait notamment avant la Première Guerre mondiale beaucoup les milieux intellectuels et politiques français en fait, hein, parce qu'on a c'est vraiment la réception de Nietzsche, c'est le début du XXe siècle, hein, effectivement on commence à traduire ses textes, on commence à les commenter, à les discuter, et là il y a beaucoup de gens qui prennent une baffe en fait avec cette œuvre là
sachant que pour une fois la réception a pris relativement peu de temps puisque Nietzsche arrête d'écrire en 1889. Il meurt en 1900.
C'est ça.
Ouais. Et il est reçu en France, finalement, quasiment dès le début du XXe siècle, avec les premières traductions.
Et alors, on va pas faire une émission sur Nietzsche parce que il faudrait des heures, hein. Mais Nietzsche est un philosophe qui est extrêmement, qui a une importance très grande à partir de dès que ses œuvres ont été publiées. C'est un philosophe qui est en fait assez, comment dire, je dirais, c'est pas ambigu le terme, mais qui en fait est saisissable de plein de manières différentes et de manières souvent contradictoires. C'est-à-dire qu'en fait c'est un philosophe de la volonté de puissance, de l'énergie vitale, pourrait-on dire. C'est surtout un philosophe extrêmement critique à l'égard de toutes les théories morales, en particulier les théories religieuses en général,
qu'elles soient de la connaissance ou de la morale.
C'est un philosophe radicalement anti-judéo-chrétien, on pourrait dire ça, donc extrêmement critique à l'égard de la morale, des morales religieuses,
qui en même temps peut en faire l'éloge en adoptant un autre point de vue, voilà. Donc il est dur à saisir.
C'est un philosophe anti-rationaliste, anti-philosophique, qui se vantait de philosopher à coups de marteau et qui a une portée subversive et critique considérable. Hein. Et en même temps, c'est aussi quelqu'un qui, sans défendre de théories philosophiques particulières, assume aussi des postures et des positions qui sont au-delà, qui sont censées être au-delà de la morale et par-delà bien et mal, hein, pour reprendre un de ses titres. Donc il assume son élitisme aristocratique, il assume sa haine de l'égalité, de la médiocrité, de la démocratie, du communisme, du socialisme, du féminisme. Donc il assume aussi une certaine nécessité naturelle de l'esclavage. Donc il est saisissable et il est lisible de beaucoup de manières différentes. Alors il a d'abord été lu par tout. Il est alors politiquement, c'est quelqu'un de relativement inclassable, même s'il a été.
En termes personnels, il est clairement plutôt, plutôt aujourd'hui, on dirait de droite. À titre personnel, c'est-à-dire qu'il est, il déteste la Commune de Paris. Mmh. Il est plutôt,
il est à Paris. Hein. Il est à Paris. Il est à Paris en moment de la Commune.
Et en fait, non, il n'est pas à Paris.
Il est ambulancier à Paris.
Et non, il n'est pas ambulancier à Paris. Il est ambulancier sur le front en 71 pendant la guerre de, pendant 70 pendant la guerre
parce que
t'as
des textes.
Il n'est pas à Paris.
Parce que t'as des textes et... sur l'incendie du Louvre. Qui
oui,
sont,
mais il n'est pas à Paris. Il n'est pas du tout à Paris.
Là-dessus.
Il est à ce moment-là, il est comment je crois qu'il est en Allemagne ou en Suisse, je sais pas. Et il est désespéré parce qu'il a l'impression que ces abominables révolutionnaires français vont détruire les monuments de la culture qui sont contenus en France. Mmh. Donc il est radicalement anticommunard.
Mmh. Oui, c'est tout sauf un gauchiste, quoi. Ça, c'est clair. Et il a été utilisé, alors là, pour le coup, à tort et à travers, par l'extrême droite nationaliste allemande, notamment. Mmh. Alors, à contresens, hein, parce qu'il ne peut pas blairer les nationalistes germain, et en même temps il est bon, il y a des compatibilités possibles parce que voilà, notamment par le biais de son entourage, hein, et donc il a
sa sœur,
il a été utilisé beaucoup effectivement du côté de l'extrême droite, du côté voilà des apologistes de la force, de la puissance en général, contre la raison, contre
la morale,
contre la morale, etc.
La morale qui affaiblirait l'homme et qui affaiblirait ses pulsions dominatrices, voilà. Etc., etc.
Donc c'est pour le panorama un peu général. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont il a été reçu par les anars, alors notamment français, notamment des gens comme Victor Serge. Et là, il y a un espèce de...
Pas que, parce qu'il y avait toute une réception de gauche, de Nietzsche, qui serait intéressante à étudier, ouais. Mais bon...
Alors là, on est dans le milieu anard, effectivement, du début du XXe siècle, et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de fascination pour la portée explosive, hein, des textes de Nietzsche dans lesquels, en fait, il désingue toutes les philosophies de contrôle, de l'égalité, toutes les philosophies oppressives de l'individu. Alors là, il y a une charge extrêmement forte là-dessus qui fascine complètement les militants libertaires, dont Victor Serge. Et en même temps, il voit bien qu'on ne peut pas non plus faire l'impasse, bien sûr, sur les aspects beaucoup plus réactionnaires et beaucoup plus détestables, hein, de du propos de Nietzsche. Et du coup, ces textes, tous les textes de Serge, alors Serge n'est pas un philosophe, hein, c'est pas un prof de philo, c'est pas un universitaire. Et ça rend ces textes vraiment intéressants. Je conseille là ce petit bouquin, parce qu'en fait, il y va avec une recherche qui est une recherche personnelle, quoi. Hein, vraiment, il va chercher, il essaye de se bagarrer avec les textes pour essayer de voir effectivement ce qu'il y puise. Il se cogne au texte, il se cogne là où ça coince, il pointe les trucs où effectivement, les trucs pas défendables d'un point de vue libertaire. Et il le fait pas en universitaire. Il le fait pas en universitaire. Alors, il se plante d'ailleurs, des fois, il connaît pas le corpus parfaitement, il se plante sur certaines références ou sur certains contresens, mais en fait, on s'en fiche parce que c'est pas du tout l'intérêt de la démarche. La démarche, c'est vraiment l'intérêt de quelqu'un qui pratique la philosophie, je dirais, et qui pratique un philosophe comme Nietzsche à partir de son expérience de vie, je dirais, et son expérience de vie, pas simplement individuelle ou privée, mais de son expérience de vie privée et politique. Et il y a vraiment, c'est quelque chose qu'on sent, quoi. Je trouve d'ailleurs, enfin, que c'est un peu un des fils... des fils directeurs de l'œuvre de Victor Serge, c'est qu'on sent toujours ça, cette espèce de présence de ce il se paye jamais de mots, quoi. Il se paye jamais de mots. Il se cache pas derrière des abstractions. Et c'est-à-dire qu'il il habite réellement, les textes et ce qu'il raconte. En particulier quand il s'agit de lui, de ses trajectoires, de ses choix, des dilemmes auxquels il est confronté, des personnes qu'il peut rencontrer, etc. Il y a cette espèce de présence et d'honnêteté, une honnêteté qui est pas de pure politesse, quoi. Hein, à l'égard de cette espèce de fidélité à lui-même, en quelque sorte, à laquelle il s'accroche effectivement. Et là, dans sa lecture de Nietzsche, c'est exactement ça. C'est comme ça, en tout cas, que je l'ai lu. Et donc, c'est l'occasion pour lui, effectivement, d'aller faire le tri, hein, y compris, du coup, dans la pensée anarchiste, pour essayer de voir, effectivement, ce qui dans l'anarchisme... Alors, dans l'idée anarchiste de placer la liberté individuelle comme principe cardinal, en fait, hein, des décisions politiques, mais aussi des types d'organisation, mais aussi des objectifs politiques qu'on va se fixer. qu'est-ce qu'on peut tirer de la philosophie de Nietzsche et d'une approche comme celle de Nietzsche dans une perspective comme celle-là. Donc il y a plein de choses qu'il va tirer, effectivement. Et en même temps, qu'est-ce qui coince Et effectivement, d'après Serge, en fait, ce que Nietzsche aurait raté, alors je donne très rapidement le cadre dans lequel il réfléchit, ce que Nietzsche aurait raté, c'est l'idée que, au fond, pour qu'il y ait des individus libres et qu'ils puissent développer au maximum leur loi intérieure, je dirais, leur loi propre, ce qui est l'objectif de l'anarchie d'après Victor Serge. Eh bien, en fait, il y a des conditions sociales et culturelles qui sont requises, bien évidemment. C'est-à-dire que l'individu peut pas se libérer seul, peut pas se libérer uniquement contre tous les autres ou en faisant abstraction d'eux. Et d'une certaine manière, toute la tentative de Victor Serge, c'est d'essayer de lire Nietzsche d'une certaine manière et d'assumer la position nietzschéenne. En essayant de montrer que comment Nietzsche lui-même aurait été finalement victime d'une espèce d'abstraction de l'individu, c'est-à-dire
que, sachant que Nietzsche, que ce soit dans certains textes du par-delà le bien et le mal, qu'est-ce qui est noble à la fin du bouquin, ou dans d'autres textes plus de la fin de l'Antéchrist, 1989, dit clairement que il est nécessaire, si on veut que certains individus se développent de la manière maximale, que on mette à leur service tout un tas de gens qui, eux, n'auront pas le droit de développer leur individualité propre, parce qu'ils seront des esclaves au service des premiers.
La formule, elle est claire, c'est il nous faut créer un ordre nouveau qui reposerait sur un nouvel esclavage. Oui. Donc c'est signé, effectivement, c'est une des formules typiques de Nietzsche que Victor Serge, qui le hérisse. Et ça le hérisse parce que d'après lui, c'est pas simplement une espèce de répulsion morale, c'est qu'il pense que c'est faux. Il pense que c'est faux. Il pense que c'est faux et il pense que justement, effectivement, ce que Nietzsche a raté, c'est cette idée que, qu'on trouve chez Bakounine, quoi, c'est que l'individu, la liberté individuelle, effectivement, elle est proportionnelle à celle des autres. Elle est proportionnelle à celle des autres. Elle suppose pas, effectivement, cette espèce de loi des vases communicants, bizarre, qu'on trouve chez Nietzsche, avec l'idée que pour que certains brillent, nécessairement, d'une certaine manière, d'autres doivent rester.
Après, l'idée de Nietzsche, c'est que ce qui brille, c'est quand même la grande culture, c'est l'art, c'est la philosophie, c'est la science. Et de ce point de vue-là, pour que quelqu'un puisse passer sa vie à ne rien produire et à vivre confortablement et à produire.
C'est un idéal aristocratique.
Un idéal complètement aristocratique.
L'aristocrate. Bien sûr, d'aristocrate. Alors, aristocrate, de la culture, une espèce d'aristocratisme dandy, quoi.
Nietzsche peut admirer Sparte, peut admirer le système des castes indiens, il peut admirer tout un tas de choses comme ça. Ouais. Donc, évidemment, ça va être compliqué de concilier ça avec un idéal libertaire.
C'est juste pas possible. Mais contrairement à d'autres, à des lectures de Nietzsche plus récentes et dites de gauche, parce qu'il y a une grande fortune aussi du nietzschéisme de gauche après les années 70. Alors Serge, lui, il va directement au problème. Il ne fait pas semblant, et puis il ne prend pas que ce qui l'arrange. Ouais. Ça, c'est clair. Donc il est sur l'os, je dirais. Et il est intéressant, cet os. Il est intéressant. Il est intéressant, effectivement, parce que Nietzsche, alors il le dit à un moment donné, d'ailleurs, au début du texte, il dit, au fond, notre seul vrai adversaire, c'est Nietzsche. Notre seul véritable adversaire, c'est lui. C'est-à-dire que il est sur, dans la mesure où il partage des valeurs qui nous sont fondamentales. Évidemment, c'est d'autant plus gênant qu'il le fasse avec des conclusions politiques qui sont aux antipodes de celles que nous voulons défendre. Et pour les autres systèmes, au fond, d'une certaine manière, il balaye ça assez rapidement. C'est-à-dire que il y a pas d'argument sérieux en faveur des autres systèmes politiques. Le pire étant peut-être, alors il y a des textes assez savoureux, je dirais, et en même temps qui sont d'ailleurs complètement outranciers de sa part, sur des critiques de l'ouvriérisme en général, des critiques du socialisme en général, des critiques du syndicalisme, y compris de l'anarcho-syndicalisme, que Nada a eu, les éditions ont eu la bonne idée de mettre en regard des textes de Nietzsche. Alors bon, c'est des textes sur lesquels d'ailleurs, enfin, qui correspondent pas à sa trajectoire ultérieure, c'est-à-dire qu'après il y a quand même effectivement, tu as parlé de trahison de la cause, mais il y a quand même effectivement un net pragmatisme qui se décide de sa part. C'est quelqu'un qui cherche, qui a quand même une honnêteté foncière, c'est-à-dire qui cherche effectivement à faire ce qu'il dit, à dire ce qu'il fait, Il est un peu comme Lionel Jospin. Et du coup,
la comparaison de Victor Serge et Lionel Jospin n'a pas eu lieu.
Ça suffit,
Jean-Mathias.
Personne n'aura relevé. Donc, il a cette honnêteté-là.
Il y a déjà trois auditeurs qui téléphonent.
Ouais. Bon, il est là, effectivement, mais ces textes-là sont intéressants parce qu'on voit comment, à cette période-là, effectivement. Alors, moi, c'est des débats qui ont fait rage, hein, effectivement, y compris autour de Malatesta, etc., hein, sur la question de l'anarchisme est-il soluble dans l'anarcho-syndicalisme, hein, il y a tous ces débats-là entre anarcho-syndicalistes et syndicalistes révolutionnaires, et puis entre anarch et anarcho-syndicalistes. Et clairement, Victor Serge, il est sur le côté anarch, anti-syndicaliste d'une certaine manière. Et pourquoi il le fait?
Sachant que la référence à Nietzsche est aussi récupérée par quelqu'un comme Julien Sorel,
bien sûr,
qui est du côté plutôt des anarcho-syndicalistes. Avant de s'égarer lui aussi plus ou moins, mais
Oui, parce que c'est une espèce d'éloge de l'énergie individuelle, de l'individu comme norme, et comme celui qui doit affirmer effectivement s'affirmer comme valeur, en fait. Et en fait, et la critique effectivement de tous les systèmes ou de toutes les théories ou conceptions politiques qui vont utiliser l'individu comme moyen. Hein. Il y a cette dimension-là.
Et sachant qu'il y a aussi une critique de la morale qui, à l'époque, a un certain succès. Mais oui, il est déjà 20h, ouais. On va peut-être faire une pause.
Bah, une petite pause, ouais, peut-être première petite pause musicale, puis après
avant
le mieux,
le, dans les articles,
voilà, et puis de lire certains extraits pour voilà. Situer un peu le bouquin.
Voilà, donc c'est un morceau d'un autre Nietzschéen, M.C. Foucault, Full Blown Nietzsche.
Like JD, I'm the GOAT, Philly hashtag swagger, world's most accurately fact-checking rapper. This shit's a game to me, shoots and ladders. Here's where the bangers be, hey girl, you know I had her. My flow the Yangtze, I spit venom black adders. Opposite of Banksy or some bullshit, all lives matter. Fuck the president, that dude can't get any badder. Fix up that poppy tea, whip it up like batter.
Hey! Don't look away.
The following on my headstone. They died, getting headstone. Peeping tombstone, eating tombstone pizza. I've gone full blown Nietzsche. Said hello to the abyss, it was good to meet ya. Behind this mask, a terrifying creature. Who would gladly cook you up and eat ya? Any track I'm on, MC Foucault's the feature.
Hey!
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour cette deuxième partie, consacrée aux essais critiques sur Nietzsche, un livre écrit par Victor Serge, publié chez Nada en 2018. Et vous venez d'entendre MC Foucault, Full Blown Nietzsche, un morceau de 2018, on est à la page. Un morceau que José me dit on a déjà diffusé plusieurs fois, mais s'il est 2018, je me demande comment on a pu faire. Enfin bref, on en discutera après.
On réglera nos comptes ensuite. Voilà, hein, ça c'est dit.
C'est bon, vous avez fini ou pas?
Ouais. On peut. Mais repris sur une faute de grammaire tout à l'heure, donc imaginaire. Donc on était en train de raconter comment, enfin on a raconté un petit peu le parcours de Victor Serge, donc de l'anarchisme individualisme, trotskisme le plus débridé, une mort par empoisonnement ensuite, après un passage par les telenovelas, non c'est le passage par les telenovelas, je viens de l'inventer. Et on a aussi dit deux trois mots sur Nietzsche, cette espèce d'auteur sulfureux qui a eu une influence décisive sur la philosophie française au XXe siècle et qui se poursuit encore aujourd'hui, une chance qui se poursuit d'ailleurs à travers des gens comme Foucault ou Deleuze, qui était très nietzschéen, ou Michel Onfray, dans un autre genre. voilà, et donc bah, on s'était dit qu'on allait après vous présenter des choses un petit peu en général, comme ça, dire deux, trois choses sur les articles qu'il a publiés, puisque ça part d'une contradiction assez fondamentale, puisque Nietzsche, on peut dire, est tout sauf anarchiste. C'est quelqu'un qui pense essentiellement le développement de la pleine puissance, de la pleine créativité, de la pleine puissance d'un individu un peu roi, mais qui, selon Nietzsche, comme il est très très réaliste, doit se faire aux dépens, finalement, d'une masse informe d'esclaves qui seraient là pour...
C'est un aristocrate.
C'est un aristocrate.
Alors bah, là-dessus, je voulais peut-être commencer à regarder un peu certains passages des textes là, que vraiment je conseille, parce que c'est pas du tout de la philosophie théorique ou universitaire, hein, c'est vraiment... et qui se coltine avec ce problème-là, qui est au fond un problème d'anarchiste. C'est pas le problème de Nietzsche. Parce que c'est un
problème qu'on peut retrouver dans certains écrits anarcho-syndicalistes, d'ailleurs, de Pouget. Oui, justement, il parle de la masse ouvrière informe qui n'est que poussière et qu'il faut organiser à travers justement l'action syndicale. Ouais. Donc c'est un vrai problème qui a pu se poser pour les anars.
Alors, bah juste pour rappeler ça, c'est la formule que j'évoquais tout à l'heure. Là, c'est au début du premier long article hein, qui ouvre un peu la collection là, rassemblée dans le bouquin des éditions Nada. Il y a ce passage là, justement où il nous dit, c'est au tout début, il dit ça. Donc ça, c'est Serge qui parle, qui écrit, qui dit « Nietzsche fut un philosophe de l'autorité et de la violence qui a osé les affirmer sans retenue, leur promettant un avenir illimité. En vérité, il a été, et il est, puisque sa pensée vit, notre unique et véritable adversaire. » Ce que je disais tout à l'heure. « Car notre vieux monde a bien plus l'habitude de nous opposer des professeurs, des juges, des soldats ou des orateurs que des hommes, des idées et des raisons. » Donc il y a vraiment cet espace-là, il le prend plus qu'au sérieux. Hein. Un peu plus tard, il explique un peu ça. C'est encore une fois, c'est l'apologie de l'individu comme valeur ultime et comme valeur même suprême, pourrait-on dire, qui lit et qui retrouve dans la philosophie de Nietzsche. Alors il le formule comme ça. C'est un peu plus tard, donc page 67 là du livre. Dès lors, il n'est pas possible de faire la distinction entre ce qui nous rapproche du grand philosophe et ce qui doit nous en séparer. Si l'anarchisme peut se définir comme entre guillemets, le combat pour la vie la plus intense, nous nous accordons avec lui, donc ça c'est une citation de Nietzsche, nous nous accordons avec lui sur l'amour de la vie, source de toutes les rébellions, but de tous les efforts. Et nous aussi, nous admirons la force, c'est-à-dire l'énergie créatrice, rénovatrice, transformatrice, en perpétuelle floraison. Nous avons tenté de créer de nouvelles valeurs, l'autonomie individuelle, l'originalité, l'absolue liberté de conscience, la solidarité spontanée, la morale sans dogme ni leurre, en un mot, de remplacer les abstractions tyranniques que nous impose le passé, les devoirs ou les contrats sociaux, par une nouvelle réalité, l'individualité humaine simplement affirmée. Et cet idéal est tellement au-dessus des forces des hommes mesquins du triste temps présent qu'on pourrait aussi bien l'appeler surhumain, puisque l'homme n'est le plus souvent qu'une brute. Trois petits points. Donc là, il est clair, on ne peut pas être plus clair que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'il prend chez Nietzsche et ce qu'il assume chez Nietzsche, c'est ça. C'est tout cet aspect-là qui est effectivement dans la philosophie nietzschéenne.
Il est déjà dans la lecture.
Mais c'est ce qui pense partager, en tout cas, avec ce type d'approche. Alors évidemment, du coup, le problème est d'autant plus douloureux pour lui, hein, lorsqu'il va falloir effectivement s'attaquer aux aspects effectivement profondément autoritaires et inégalitaires de la philosophie de Nietzsche.
Parce que malgré tout, Nietzsche dira que même pour l'individu aristocratique, la pleine expression des forces doit passer par une contrainte sociale maximale, qui sera pas une contrainte sociale où on va te mettre au boulot jusqu'à ce que tu crèves, mais qui sera une contrainte sociale en termes de formalisme, en termes de devoirs, en termes de poids de la, de, comment dire, du groupe social aristocratique sur l'individu aristocratique lui-même. Enfin, Nietzsche, c'est pas du tout quelqu'un qui promet, comment dire, une espèce de liberté youplaboum, fais ce que tu veux. Hein. Enfin.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors, je le signale aussi dans le texte, il y a une excellente préface là, de Annick Stevens, qui est une militante qui travaille à Marseille, et qui a un texte vraiment remarquable. Là, il y a 60 pages de mise en perspective de la philosophie nietzschéenne, et c'est pas du luxe, hein, parce que le corpus est assez énorme, assez conséquent. Et elle cite aussi d'autres auteurs, alors pas tout à fait des contemporains de Serge. Il y a notamment un auteur qu'on avait déjà évoqué ici, c'est l'anarchiste allemand Gustav Landauer, et qui cite un passage de Landauer qui est très proche en fait de ce que dit Serge là. Alors je lis un petit peu long, mais c'est assez lumineux, je trouve, au niveau des formulations. Alors là, on est du côté effectivement extrait de Landauer, donc Pensée d'un anarchiste sur l'anarchisme, et c'est un texte un peu antérieur, hein, qui date de 1901. Alors voilà comment Landauer, et donc ça donne une bonne idée du milieu intellectuel ou du milieu idéologique aussi dans lequel baigne Serge, et puis la tendance anarchiste plutôt individualiste, hein, de début de siècle. Alors les passages de Landauer, c'est le suivant, donc c'est cité la page 15 là, de la préface d'Annick Stevens. L'anarchie n'appartient pas à l'avenir mais au présent. Elle n'est pas affaire de revendication mais affaire de vie. Il ne s'agit point de la nationalisation des conquêtes du passé, il s'agit de la naissance d'un nouveau peuple qui, venant de petits commencements, se forme de tous côtés par colonisation intérieure, au milieu des autres peuples, dans de nouvelles communautés. Il ne s'agit point de la lutte de classe des non-possédants contre les possédants, il s'agit du fait que des êtres libres, moralement forts et maîtres d'eux-mêmes, se séparent des masses pour s'unir dans de nouveaux liens. L'ancienne opposition entre la destruction et la construction commence, alors, à perdre son sens. Il s'agit de la formation de ce qui n'a jamais été. Ceux qui veulent créer la vie doivent être des hommes revivifiés et régénérés de l'intérieur. Chacun de nous devrait connaître ce suprême instant où, pour parler avec Nietzsche, il recrée en lui le chaos originel, où il fait jouer devant lui et regarde en spectateur le drame de ses passions et de ses sollicitations intérieures les plus pressantes, et tout cela afin de déterminer laquelle parmi ses nombreuses personnalités doit dominer en lui, de déterminer ce qui lui est propre et le distingue des traditions et des héritages du monde des ancêtres, ce qu'il doit être pour le monde et ce que le monde doit être pour lui. J'appelle anarchiste celui qui a la volonté de ne pas jouer un double jeu avec lui-même, celui qui, dans une crise décisive de son existence, s'est pétri lui-même comme une pâte toute nouvelle, de sorte qu'il se connaît intimement et peut agir selon les lois de son être le plus secret. Pour moi, un affranchi, un homme libre, un homme véritablement homme, un anarchiste, c'est celui qui est son propre maître, c'est celui qui a découvert en lui-même la passion qu'il veut suivre, la passion qui constitue sa vie même. Je n'ignore pas non plus que les masses désireuses de sortir de leur état de misère et d'insécurité sociale sont très peu concernées par les hauts besoins de culture et les misères morales auxquelles je fais allusion ici. Elles n'ont que faire de ce à quoi aspirent les êtres particuliers que nous sommes. Et ce serait encore succomber à un romantisme délétère que de croire que les changements que réclament les masses pauvres et socialement dépendantes d'une part, et la transformation intime des individus dont je parle ici d'autre part, sont identiques ou du moins confondus d'une façon inextricable. L'idée que je défends ici n'a donc absolument rien à voir avec une exigence envers la société humaine. Degré de culture, nous devons comprendre qu'il y a coexistence de plusieurs degrés de culture, et nous pouvons sans crainte abandonner le rêve, pas même beau d'ailleurs, de les voir tous s'élever à un même niveau. Nulle exigence donc. Je désire seulement décrire un état intérieur qui permettra peut-être à certains d'entre nous de montrer par l'exemple ce qu'est le communisme et l'anarchie. Je veux simplement dire que cette liberté doit d'abord naître et se développer au plus profond de l'individu avant de se manifester comme réalité extérieure effective. Alors c'est un texte qui est un petit peu long, mais je le trouve très intéressant pour voir un petit peu l'état d'esprit dans lequel baigne un peu le mouvement anarchiste là, européen en l'occurrence. Alors là c'est la tendance effective. Et Landauer est quelqu'un qui a mouillé la chemise, si je puis dire, hein, parce qu'il a c'est un militant.
Qui est devenu fusillé.
Il a été fusillé après la Commune de Munich en 18. C'est quelqu'un qui a organisé des grèves, qui a été arrêté de nombreuses fois, hein, qui a fait de la propagande, y compris compris de la propagande en milieu ouvrier, hein, à de nombreuses reprises, mais en même temps, je trouve qu'il y a, voilà, il y a cette espèce de, d'héritage là qui est très fort, hein, effectivement, dans l'anarchisme de cette époque-là, qui est un héritage profondément individualiste. Alors, en Allemagne, peut-être encore plus fort. Hein, il y a l'œuvre de quelqu'un comme Stirner, par exemple, hein, qui est vraiment la référence de ce point de vue-là, une espèce d'apologie, voilà, de la liberté individuelle. Contre la société, là même, pratiquement. Hein, on a ça.
Contre toutes les abstractions sociales qui demandent à l'individu de faire des sacrifices au nom de rien à leur Dieu, puisque la société, c'est un mot, l'État, c'est un mot, et on demande aux individus de sacrifier pour tous ces mots.
C'est ça. Et la seule réalité tangible et concrète, c'est justement l'individu et sa liberté, et que donc, effectivement, tout ce qui va venir pour aliéner ça doit être balayé d'un revers de main.
Il pourrait être d'accord avec Margaret Thatcher, hein, qui disait que la société n'existait pas. Enfin bon, peu importe.
Ouais, de ce point de vue-là, c'est possible. Après, je pense qu'il y a aussi, là, et ça sent, moi, je trouve, dans le texte de Landauer, il y a aussi une influence un peu protestante puritaine dans cette affaire-là. C'est-à-dire dans les idéaux de maîtrise de soi, dans les espèces de tourments intérieurs, dans l'espèce de rapport direct à soi-même. Alors, c'est évidemment une forme de puritanisme sans Dieu, hein, puisque là, on n'est pas là-dedans. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pas absent, d'ailleurs, de ce puritanisme-là et cet héritage-là. Il est pas non plus absent de la philosophie de Nietzsche.
Mais Nietzsche était fils de pasteur et destiné au pastorat avant de...
Il y a une espèce de programme de table rase personnelle, je dirais, hein, et qui prime finalement pratiquement sur les objectifs et l'organisation d'une révolution sociale. Alors, je sais pas ce que dit Landauer. Landauer dit pas c'est l'individu et la société, on s'en fout, mais il y a cette espèce de, alors je sais pas comment il faut le dire, si c'est de l'orgueil ou de la lucidité, j'en sais rien, peut-être un peu des deux d'ailleurs, hein, mais l'idée de dire qu'effectivement les objectifs de l'anarchie, ils ne sont en tout état de cause, au moment où il écrit, ils ne sont partagés que par une minorité d'individus. Alors, ça ne veut pas dire que tous les ouvriers ou que le peuple est rempli d'abrutis, sûrement pas, parce que dans le peuple, il y a effectivement aussi des individualités qui sont écrasées par le système, mais ce sont des individualités. Et il ne s'agit pas effectivement de lutter pour la classe en soi, ou pour les ouvriers en soi, ou pour la société en elle-même. Ça, effectivement, ce sont des abstractions. Il y a une espèce de hiérarchie logique, je dirais quasiment, ou de primat logique et politique, du coup, hein, de l'individu sur le collectif. Et donc Serge, c'est dans ce contexte-là qu'il baigne, et c'est ça qu'il va lire effectivement, hein, chez Nietzsche, et c'est ça qui va lui plaire, bien évidemment, lui plaire pas simplement, je dirais, sur ce que ça confirme chez lui en termes de projet personnel, mais aussi lui plaire par les armes que ça donne pour faire péter, hein, pour faire péter les contraintes bien réelles. Et ça, on peut pas reprocher à Nietzsche de pas avoir fourni des outils là-dessus, de faire péter effectivement toutes les théories ou toutes les abstractions qu'on peut opposer, justement, voilà, notamment les abstractions morales, hein, ça c'est un gros sujet chez Nietzsche, évidemment, et morales et religieuses, puisque voilà, quasiment tout s'y ramène d'après lui. Donc tout ce qui vient humilier l'individu, tout ce qui vient limiter effectivement la créativité, la singularité individuelle, évidemment la singularité individuelle ne peut pas être mise en balance avec quelques règles morales que ce soit, hein, chez Nietzsche. Et donc il y a effectivement une séduction très claire, hein, sur Serge, et on la comprend, hein, je veux dire, à la lecture de ces textes-là, hein, de cet aspect-là de la philosophie nietzschéenne. Et alors, en même temps, du coup, effectivement, que faire de ces aspects autoritaires, de ces apologies de la violence comme violence créatrice? Alors ça, tu t'évoquais Sorel tout à l'heure, effectivement, c'est quelque chose qui s'est repris chez les syndicalistes révolutionnaires, mais c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, de se coltiner à ce moment-là, où effectivement, alors c'est pas que Nietzsche, hein, il y a un contexte, et puis évidemment, c'est jamais un auteur n'arrive pas comme ça, toujours comme un prophète là-dessus, mais c'est quand même effectivement une référence qui a alimenté, nourri le mouvement, les mouvements libertaires, je dirais, hein, parce que le syndicalisme révolutionnaire, il y a un héritage libertaire très fort, et en même temps, pour le coup, il y a des débats, hein, avec les anarchistes là-dessus, puisque à partir du moment où on accepte effectivement de subordonner la liberté individuelle à la lutte des classes, ou en tout cas on conditionne la liberté individuelle à la lutte des classes, et ben, il faut faire des concessions à des abstractions comme justement les classes sociales, le prolétariat, l'exploitation, etc. Avec de bonnes raisons, hein. Voilà, à titre personnel d'ailleurs, mais c'est vrai que faut pas perdre de vue effectivement ce souffle là. Enfin, je veux dire que tout syndicaliste que je sois, je suis pas insensible à ce type d'approche et à ce type d'analyse là. Et je pense pas qu'on puisse effectivement s'identifier d'une manière ou d'une autre, voilà, à l'anarchie sans avoir aucune sensibilité à ça. C'est, et voilà, donc ça a ce mérite-là, effectivement, le texte. Alors peut-être, si on fait peut-être
deuxième break.
Lire après d'autres petits passages savoureux.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et dernière partie d'une émission consacrée à Victor Serge et à son essai critique ou à ses essais critiques sur Nietzsche. Et donc on vous a présenté un peu le contexte qui était Nietzsche, qui était Victor Serge et pourquoi est-ce qu'un anarchiste comme Victor Serge a éprouvé le besoin de se confronter à une pensée nietzschéenne qui, à de nombreux égards, est très ambivalente pour des gens attachés à cette tradition anarchiste, puisque Nietzsche est d'un côté très très attaché finalement à la libération de l'individu, et que de l'autre, il conditionne cette libération de l'individu aristocratique à une masse finalement qu'il faut exploiter sans merci. Et donc, évidemment... les anarchistes voudraient finalement le premier terme du... de la chose sans le second. Et Nietzsche, qui est assez impitoyable en termes de logique, aurait tendance à penser que c'est pas possible. Si vous voulez des individus complètement libres, il faudra en asservir une masse d'autres pour que les premiers puissent être libres.
Et donc, du coup, effectivement, ça, c'est des aspects qui sont pas acceptables pour Serge, évidemment. Et en même temps, il s'y coltine, il voit bien, effectivement, le lien que Nietzsche établit entre ça, entre l'affirmation de la création, de la créativité individuelle et de la volonté de vie et de la volonté de puissance individuelle, et puis le fait du coup de le faire en écrasant des autres qui ont une volonté moindre ou qui va être mise au service de la première. Et du coup il y a tout un... alors c'est une question qui est qui est sensible, hein, y compris chez les anards, parce qu'il y a la, il y a une forme, l'individualisme effectivement conduit vite à une espèce de conscience un peu élitiste. Hein, bon voilà, les illégalistes, il y a cette avec l'idée de la propagande par le fait, il y a cette idée effectivement de d'aller être des révolutionnaires exemplaires et par l'exemple d'une certaine manière et par l'exemple de leurs martyrs et de la confrontation personnelle et directe à l'État et aux lois, l'idée que ben voilà, il y a une dimension un peu prophétique, martyr et élitiste aussi, hein, qui est là, et aussi évidemment, c'est pour ça que c'est pas une petite question, la question du rapport à la violence, de la valorisation de la violence comme comme énergie créatrice, hein, à la fois de destruction et de création.
La valorisation de la destruction, si chez Nietzsche.
Exactement, en tant que telle, mais qui n'est pas absente aussi, des mouvements illégalistes.
Qui n'est pas absente de Bakounine.
Et qui n'est pas absente, évidemment, de la tradition anarchiste. Hein. Oui. Et donc, c'est des questions qui sont assez aiguës. Hein. Et alors, du coup, comment Serge essaye je dirais pas conjurer, mais de tenir à distance en quelque sorte les aspects inégalitaires et les plus aristocratiques et les plus autoritaires finalement de la pensée de Nietzsche, il va se concentrer du coup sur cette affaire de domination violente, hein, qui est une condition pour Nietzsche de l'affirmation de la volonté de puissance de sur d'autres. Et alors là, je me réfère encore une fois à un extrait qui est dans cette préface décidément très bien faite là, des éditions Nada, de Annick Stevens. Alors elle cite un autre auteur dont, alors, pour le coup, j'ai jamais entendu parler, qui est un militant anarchiste qui s'appelle André Colomer. Alors c'est un texte un peu plus tardif, mais c'est de 1922. Réflexion sur Nietzsche et l'anarchie, dont encore d'autres. Hein. Donc tiré de la revue anarchiste, numéro 6. Et alors il y a ce petit texte où effectivement qui cadre assez bien la manière dont Serge lui-même se positionne vis-à-vis des aspects autoritaires et aristocratiques de Nietzsche. Alors donc je lis l'extrait qui est assez intéressant aussi. Donc c'est un texte donc de Colomer, un extrait de Colomer qui dit si j'exerce ma domination, moi qui prétends ne connaître et n'exercer d'autres puissances qu'en moi-même, c'est pour atteindre à la possession de moi-même, à la maîtrise de moi-même. Je ne domine que pour ma création. Ma fin, c'est ma propre fin comblée. Ma fin, c'est le champ de ma jouissance, et je ne me réjouis de vivre que dans l'accord de toutes mes possibilités, idées et actes, sensations, imaginations, perceptions présentes et hypothèses sur mon avenir, mon harmonie, voilà les conditions de ma puissance. Personne ne peut m'en déposséder. Ce que je cherche à dominer, c'est tout ce qui tente d'échapper à mon art, tout ce qui ne s'harmonise pas à ma musique, tout ce qui ne répond pas à l'élan de mon amour. Je domine pour rendre mien. En dominant, je prends, je serre contre mon cœur, ce qui se donne à moi, je le prends tout entier en le respectant, ce qui se refuse à moi, je le brise. Vers moi, je presse tout le monde à le broyer, j'étreins, je domine pour me dominer. Le Nietzschéen, au contraire, domine pour dominer. Il y a une théorie de l'art pour l'art qui ne conçoit pas la création artistique comme un plaisir individuel de l'artiste, la fleur d'une vie, le don de l'individu à lui-même, mais comme une des anonymes expressions de la fonction esthétique. L'art est une fin à lui-même. Pour Nietzsche, de la même façon, c'est la puissance qui devient la suprême fin. Sa théorie est celle de la puissance pour la puissance. Qu'importent les formes de la domination et qu'en importent les conséquences, aussi bien pour celui qui domine que pour ceux qui sont dominés. Il s'agit avant tout de dominer. La domination finit par devenir son idéal, sa religion, sa manie, dit-il. Alors, je ne suis pas sûr que la manière dont Colomer met en avant...
C'est presque une interprétation fasciste de Nietzsche, en fait. Mais il y a un élément... je me demande s'il n'y a pas eu des interprétations qui allaient dans ce sens plus tard, ouais, qui lisaient Nietzsche comme ça, mais en le valorisant, alors que lui, il le condamne.
Lui, il le condamne, c'est ça.
Je me demande si les nazis ou les fascistes n'ont pas lu Nietzsche comme ça, mais en disant ça, c'est ce qu'on veut, c'est ça qui
exactement,
est bien.
Exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, la volonté de puissance, c'est que la puissance devient domination et devient une fin en soi, d'une certaine manière. Alors, je ne suis pas persuadé d'ailleurs que l'alternative qu'il propose lui comme maîtrise de soi ou comme domination de soi-même soit complètement très satisfaisante, solide, mais on voit l'idée. Après, en pratique, je ne suis pas sûr d'ailleurs non plus que ça règle tous les problèmes, parce que effectivement la question du rapport à autrui, je dirais, pour prendre une catégorie du rapport à autrui, n'est pas forcément réglé par ça, mais on voit l'idée, et on voit en tout cas la stratégie, je dirais.
Ouais.
Et il y, y a quelque chose, ça change des choses, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ça te met à l'abri quand même, enfin ça te met à l'abri. Oui, ça te met en partie à l'abri des interprétations fascisantes de Nietzsche, qui n'ont pas manqué d'être faites d'ailleurs. Hein. Et ça va, je trouve, alors encore une fois, c'est pas du tout sûr que ça soit le fin mot de l'histoire, mais ça va avec ces idées de voilà, cet héritage puritain, je dirais, voilà, y compris protestant, de travail sur soi, de perfectibilité individuelle, etc., qui sont, alors c'est un peu paradoxal de dire ça, mais cette tradition puritaine individualiste là, c'est effectivement quelque chose qu'on trouve, hein, dans la tradition anarchiste, hein, qui est assez forte. Il y a par exemple, y compris chez des gens comme Kropotkine par exemple, hein, dans l'anarchisme le plus classique, il y a effectivement des textes sur la morale anarchiste et sur l'espèce de perfectionnisme moral qui sont des formes de puritanisme, hein, qui sont pas d'ailleurs forcément les trucs les plus sympathiques ou les plus riants de cette tradition là, mais on est dans ce moment-là, j'irais, hein, de l'histoire de l'anarchie politique, et du coup effectivement on comprend en quoi Nietzsche lance un sacré défi en fait, hein, à la tradition anarchiste de ce point de vue-là. Alors évidemment du coup c'est donc un texte de Colomer cité dans la préface là de l'édition Nada. Et alors un petit extrait de Serge qui va exactement dans le même sens, hein, donc c'est dans un des extraits un des textes que Nada a mis à la suite, hein, de l'essai sur Nietzsche, qui s'appelle Dionysos, donc voilà, donc qui est aussi dans le ton, je dirais.
Et le dieu grec qui est un des thèmes récurrents chez Nietzsche, voilà, depuis ses premiers écrits, depuis la naissance de la tragédie, où il oppose Dionysos et Apollon dans l'explication de la naissance de la tragédie.
Voilà. Et donc effectivement, on voit effectivement les affinités avec l'extrait que je viens de lire là, dans ce texte-là. Donc là, c'est page 109. Donc là, c'est Serge qui écrit, qui dit « Certainement un tel égoïsme, alors ça c'est celui que lui revendique en tant qu'anarchiste, individualiste, hein, certainement un tel égoïsme n'a rien de vil et est si profond et sain que ses fruits seront nécessairement la bonté altière, l'instinct fraternel, l'amour profond qui sait aller jusqu'au sacrifice. Puisqu'on cherche toujours sa propre satisfaction, et c'est là le principe même de l'égoïsme inévitable qu'il est nécessaire de bien connaître, cependant, alors que l'homme sans force ne trouve de satisfaction que dans la défense jalouse des limites de sa médiocrité, l'homme supérieur, ça c'est Serge qui parle, l'homme supérieur la trouve dans le don désintéressé de sa puissance. Le Christ se laissa crucifier car la plus haute satisfaction de son âme était dans le sacrifice absolu. » Trois petits points. « Un tel désir de dominer ne peut être confondu avec celui des misérables qui, ne se dominant pas eux-mêmes, croient régner par le fouet. » Une telle volonté exige la pleine liberté pour tous. Une telle générosité ne peut admettre de servitude. Alors effectivement, si on pose l'alternative comme ça, entre d'un côté des fascistes ou des fascisants qui font l'apologie de la violence pour elles-mêmes, et de l'autre côté effectivement l'individualiste qui va cultiver son jardin par la maîtrise de soi, effectivement mon choix est vite fait. Après effectivement, on aimerait ne pas être face uniquement à cette seule alternative, mais effectivement ça correspond bien, je trouve, en
tout
cas.
Il y a quand même des accents, alors c'est peut-être un reproche injuste, mais il y a quand même des accents très très masculinistes et très grecs dans le truc, c'est marrant.
Ah
ça.
Oui, il y a une espèce d'éloge effectivement d'une forme d'héroïsme de la vérité, oui c'est clair, oui.
Ce serait un truc à questionner pour nous aujourd'hui. Ouais. On va laisser l'antenne à Entre voilà. Chien et Loup et on va
et du coup on parlera pas de ces extraits anti-ouvriéristes, mais c'est peut-être mieux comme ça, sinon
voilà, donc il y a Willy dans les studios qui est en train d'essayer de chasser José. On vous laisse, on vous présentait Victor Serge et ses critiques sur Nietzsche aux éditions Nada, avec une introduction des notes d'Annick Stevens. Voilà, on se revoit plus tard. Thank you.
pas un